Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Ce matin, dans le livre du prophète Ésaïe, et au chapitre 52, nous allons voir ce matin. Détache les chaînes de ton cou. Amen. Détache les chaînes de ton cou. Et j'ai remarqué comment, certainement beaucoup d'entre vous aussi, combien la parole de Dieu est explosive. C'est de la dynamite. Il y a des choses qui sont écrites là, et si on les prend vraiment avec la foi, eh bien, elles peuvent changer complètement notre vie. Nous allons donc lire, s'il vous plaît, dans Ésaïe 52, les 12 premiers versets. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. C'est un beau verset, hein, le dernier là que je viens de lire, quand on part en voyage. Hein, souvent on cite « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais ». Mais je remarque en le lisant ce matin, « L'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche ». Ça c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut être comme ça. Il peut être devant et il peut être derrière aussi. Amen. Voilà donc ce que déclare la parole de notre Dieu. Réveille-toi, revêt-toi de ta force. Je vous donne la version à la colombe qui dit « Réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion, revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. » Gloire à Dieu, ce sera surtout sur ces paroles que nous allons arrêter notre méditation ce matin. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être moins que rien? Souvent, vous allez me dire, on a un sentiment bizarre des fois qui nous envahit. Des fois, non, on dirait qu'on a mangé du lion, hein? Oui, on croquerait des montagnes. Et puis, des fois, on est vraiment raplapla. Et à ce moment-là, vous sentez que vous ne valez rien. Peut-être même qu'on vous méprise, qu'on vous écrase, que vous êtes traité comme un ver, qu'on se moque de vous. Et peut-être même vous êtes tourné en dérision. Et je pense que c'est ce que ressentait le peuple de Dieu exilé à Babylone. Car les ravisseurs disaient, on ne l'a pas lu, mais c'est le dernier verset du chapitre qui est juste auparavant, le dernier verset, qui dit ceci, je vous donne la version parole de vie, « Mets-toi par terre, nous allons marcher sur toi. » C'est les ennemis qui lui disent cela, « Mets-toi par terre, nous allons marcher sur toi. » Et tu faisais de ton dos un passage, un chemin sur lequel il marchait. Dans ce chapitre 52 d'Ésaïe, nous trouvons Sion qui est jetée dans la poussière. Elle est en exil, elle est captive des Babyloniens. Babyloniens incirconcis, Babyloniens impurs pour le peuple d'Israël, qui l'ont donc humiliée et tourmenté. Et la question que l'on se pose quand on voit la situation de captivité de ce peuple, c'est est-ce que Sion, la sainte cité de Dieu, sera un jour restaurée? Restaurée, bien sûr, dans la splendeur. Cette splendeur qui avait été décrétée par le Seigneur. Est-ce que elle retrouvera un jour cette dignité qui aurait dû être toujours la sienne? Ce message d'Ésaïe 52, enfin du moins ce texte sur lequel nous allons nous arrêter, nous enseigne trois choses. Premièrement, il nous enseigne que Dieu veut que son peuple réagisse quant à cette situation d'humiliation. Ensuite, que nous sommes capables de faire quelque chose parce que le Seigneur lui-même a déjà agi. Et troisièmement, étant donné ce que Dieu a fait, il a un message qu'il veut que nous proclamions. Avant de voir ces trois points, nous devons savoir une chose. Cette chose, c'est que Dieu ne dort jamais. Amen. Dieu ne dort jamais. On a déjà eu l'occasion de le voir dans Ésaïe 51 au verset 9. Je ne sais pas si c'est dimanche dernier même, où Sion implore l'Éternel pour qu'il se réveille de son sommeil. Alléluia. Et qu'il vienne au secours de son peuple. Le texte dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois. C'est Dieu qui prie Dieu et qui dit, Seigneur, réveille-toi. Mais la vérité, vous la connaissez? C'est que le Dieu souverain ne dort jamais. Et qu'il ne se fatigue pas. Et qu'il n'oublie pas non plus les engagements qu'il a pris de sauver son peuple. Dans Ésaïe 40, verset 27, Dieu déclare, « Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ? » Et Dieu répond, « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et puis vous avez aussi Ésaïe 49, verset 14, où Dieu dit, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne. » Vous voyez que Dieu entend ce qu'on dit, hein? Ici, Israël déclarait, « L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. » Et Dieu dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Alléluia! Donc, mes frères, mes sœurs, mes amis, où que vous soyez, n'est-ce pas, ce matin, eh bien, notre Dieu n'a pas besoin d'être réveillé. Immédiatement, on pense à... au dieu Baal, le grand défi qu'il y a eu un jour entre Élie le prophète et les prophètes de Baal. Vous vous souvenez que Élie se moquait des prophètes de Baal en disant « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu », soi-disant. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et se réveillera. Voilà ce que Élie, le prophète, déclare concernant le Baal, l'idole, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que notre Dieu, il n'est pas comme ça. Vous le croyez? Oh, Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui est endormi, vous l'avez compris, mais c'est le peuple de Dieu. Ce sont eux qui ont besoin d'être réveillés. Ils sont dans un profond sommeil. Les enfants de Dieu. Inconscient de cette œuvre nouvelle qui a été accomplie par le Seigneur pendant que eux dormaient. Les choses ont changé. Et Dieu dit, réveille-toi. Dans ce chapitre, Dieu adresse sa consolation et il déclare qu'il a racheté son peuple tel qu'il l'a promis il y a longtemps. Alléluia. C'est-à-dire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a livré bataille et il a vaincu les ennemis de Sion. Il a accompli pour son peuple une délivrance et un salut éternel. Alléluia. Prenez conscience, mes frères et sœurs, de l'œuvre de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Ça me fait penser... Et ce serait une illustration, d'ailleurs, pour ce que nous sommes en train de dire, à cette situation dont le récit se trouve dans Actes 12. Je vous le lis, vous allez voir. « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre l'apôtre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. » Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange » et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia! Oui, le Seigneur ne dort pas. Amen! Il est à l'œuvre. Vous vous rappelez les disciples dans la barque? « Seigneur, tu dors, et nous on périt. » Je crois que notre Dieu a œuvré en faveur de son peuple et en faveur de tous les croyants. Ici, il est parlé de Sion. Et Sion, maintenant, la Sion spirituelle, eh bien, c'est le peuple de Dieu, la nouvelle création. Notre Dieu a étendu le bras de sa puissance pour sauver son peuple, c'est-à-dire te sauver toi. Tu es l'objet de ce salut. Il veut sauver les autres, Mais on prend cela aussi pour toi, personnellement. C'est pour ça qu'on dit, il est mon sauveur personnel. Souvent, hein, on entend cette expression, et pourquoi les gens disent, les personnes qui ne connaissent pas, ils disent, pourquoi les gens disent sauveur personnel? Hein? Il est à moi. Mais parce que les gens se l'approprient, et c'est ça la foi. Qu'il soit le sauveur des autres, gloire à Dieu. Mais est-il ton sauveur? L'as-tu reçu, toi? Amen. Alors, nous écoutons ce matin, mes frères et sœurs, des impératifs, les impératifs du Seigneur, et nous allons les mettre en pratique. Du moins, j'espère. Ces impératifs, je les sors un petit peu du contexte. Pourquoi traînes-tu dans la poussière? Semble dire ce texte, tu as été libéré, tes bourreaux ont été vaincus, tes tyrans ont disparu, tes chaînes ont été brisées et les portes de ta prison détruites. Et on peut ajouter, savoure ta liberté, détache les chaînes de ton cou, lève-toi, arrange-toi, redresse-toi, réveille-toi, un jour nouveau a commencé. Le roi est venu et le royaume de Dieu est ici. Amen. Donc il y a, je vous en ai parlé tout à l'heure de trois points. On va rappeler le premier que nous allons méditer maintenant. Le premier, c'est la responsabilité du croyant. Et la responsabilité du croyant, c'est de la réaction. On ne peut pas profiter de notre salut sans la foi dans la parole de Dieu et sans lui obéir. Si tu n'as pas la foi, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas jouir du salut que Dieu a accompli pour toi. Dans les deux premiers versets d'Ésaïe 52, il y a 8 impératifs. Et dans ces impératifs, on voit que le Dieu Tout-Puissant commande les croyants. Ce qui implique forcément la responsabilité humaine, puisqu'il y a commandement et que Dieu attend une obéissance, une réponse. Donc il y a une responsabilité de notre côté. Ne restez pas passifs, hein, parce que Dieu, lui, nous donne des impératifs. Alors, on va voir ensemble ces impératifs. Les premiers, c'est « réveille-toi, réveille-toi ». Vous avez remarqué? Et si on disait à l'Éternel « réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force », et Dieu dit à son peuple « réveille-toi, réveille-toi ». C'est l'humour de Dieu, ça, hein? Tu me dis à moi « réveille-toi, réveille-toi », mais moi, je te dis à toi « réveille-toi, réveille-toi ». Gloire à Dieu! Ça, ce sont les deux premiers impératifs. Je compte les deux, hein? « Réveille-toi, réveille-toi ». Puisque Dieu emploie deux, je vais employer les deux, la Bible le dit. Réveille-toi, réveille-toi. Et le fait qu'il y ait répétition implique l'intensité, évidemment. Dieu ne dit pas réveille-toi, il dit réveille-toi, réveille-toi. Donc nous devons nous réveiller immédiatement. Cette parole, elle est urgente. Nous devons secouer notre torpeur. Un petit peu comme lorsque vous vous réveillez le matin, là, hein, que vous êtes entre deux, hein, vous savez pas trop où vous êtes, là. Ça vous est jamais arrivé de sortir d'un rêve, hein? Vous savez plus si vous êtes chez vous, surtout quand je suis en vacances. Là, on a perdu les repères, je me réveille. Où est-ce que je suis? Dans mon rêve, j'étais en plein travail. Et puis quand j'ouvre les yeux, je suis en vacances. Oh, terrible, hein? Oui, alors on va se laver la figure, on va ouvrir les yeux, et on va regarder autour. C'est ça que le Seigneur attend. Et là, qu'est-ce que nous voyons, mes frères et sœurs? Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Nos bourreaux ont disparu. C'est ce que Dieu dit à Sion. Un nouveau roi est sur le trône, et il règne en ami. Amen. Les choses ont changé, mes frères et sœurs. Il est notre sauveur. Comme le dit cette merveilleuse, j'allais dire, parabole, l'histoire de Ruth, vous savez, de Naomi. Il est notre proche parent. Il est celui qui a droit de rachat sur nous. Et il a mis en pratique ce droit de rachat en devenant notre proche parent, c'est-à-dire un être humain comme nous. Gloire à Dieu. Alors il faut cesser de penser comme autrefois. Le Seigneur nous demande de nous réveiller, de sortir un petit peu de notre inconscience. De ne plus dire comme autrefois, je suis un esclave, je suis un captif. Et comme le disait ce texte du chapitre 51, je dois m'allonger et laisser mes bourreaux me marcher dessus. Arrêtons de dire, je ne suis rien, je ne suis qu'un ver. Ne pensons plus comme autrefois, je suis toujours sous la colère de Dieu. Je dois boire la coupe de sa colère. Peuple de Dieu, regarde dans ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? La coupe de la colère a été ôtée de ta main. Vous vous rappelez, dimanche dernier? Il a enlevé de ta main la coupe de sa colère. Tu n'as plus à la boire. Ça veut dire que tu as été délivré de la mort éternelle. Et Dieu te dit ce matin, réveille-toi, réveille-toi. Amen. La deuxième, j'allais dire, les deux suivants impératifs, c'est revêt ta parure, revêt tes habits. Deux fois, il y a le verbe se revêtir. Hein? Maintenant, je vous donne d'autres traductions. On a un paquet de traductions, vous savez, différentes de la Bible. Et j'ai remarqué que la plupart des autres traductions, pour ne pas dire toutes les autres traductions, disent « revêt-toi de force ». Nous, dans ce second, c'est traduit « revêt ta parure ». Mais la plupart des autres traductions disent « revêt-toi de force » ou « revêt-toi de ta force » et « revêt tes habits de fête ». C'est le même mot, par exemple, que je vous ai cité tout à l'heure, quand il est dit « revêt-toi de force, bras de l'Éternel ». Nous avions fait la comparaison, nous on dit à l'Éternel « réveille-toi, bras de l'Éternel, revêt-toi de force ». Et Dieu dit « réveille-toi, revêt-toi de force ». Il nous renvoie la parole. C'est le même mot. Donc on peut traduire tout simplement ce matin, n'est-ce pas, « revêt-toi de force ». Mais c'est à nous que Dieu dit ça. Il y a même une traduction qui traduit « revêt-toi de puissance ». Force, puissance, en français on a une richesse de langage. Alors, ces deux impératifs suivants sont « revêt-toi de puissance » et « revêt tes habits de fête ». Dieu te le demande ce matin, ou devrais-je dire « Dieu te l'ordonne ». C'est un impératif, revêt-toi de ta puissance. C'est pas à Dieu, non, c'est à toi. Revêt-toi de tes habits de fête. De quoi tu es habillé ce matin? Attendez que je regarde un petit peu. Gloire à Dieu. Vous vous êtes fait beau. Et cette double insistance, comme tout à l'heure, quand il était dit réveille-toi, réveille-toi, ici c'est revêt-toi, revêt-toi. Hein? Montre donc que nous avons à répondre immédiatement et sérieusement. Remets-toi, remets-toi. Le Seigneur nous pousse. C'est urgent, là aussi. Il ne veut pas que tu vives ainsi dans cette misère. Remets-toi, il ne veut pas te voir comme ça. Il veut te voir bien habillé. Alléluia. Il y aurait quelque chose à dire sur les habits? Vous savez, mes frères et sœurs, spirituellement parlant, nous étions esclaves. Et nous vivions dans la nudité. C'est pour ça que la Bible dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » parce que sans Christ, nous sommes nus. Et nous souffrions, bien sûr, de la honte de l'esclavage. Nous étions sans cesse torturés intérieurement. Mais alors que nous dormions dans la poussière, pendant que, comme Adam, un petit peu, vous savez, était en sommeil, Dieu faisait quelque chose de glorieux. Alléluia. Pendant que nous, on dormait dans la poussière et dans la nudité, Dieu avait prévu pour nous des habits de fête, des habits blancs et de grande splendeur. Une autre traduction dit « revêt-toi de splendeur ». Ça veut dire « sois beau ». Amen. Ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la reine qui est assise à sa droite. Et cette reine doit être vêtue de splendeur et se comporter avec dignité. Tu es l'Église de Christ. Alléluia. Donc nous devons nous vêtir de ces vêtements qui conviennent à notre rang et nous vêtir de force. Et c'est notre Rédempteur bien-aimé qui a pourvu, qui nous a acquis ces choses. Et rappelez-vous de l'histoire du fils prodigue. Qui ne connaît pas l'histoire du fils prodigue? Il était habillé de haillons, il était affamé, il était fatigué. Son père l'a reçu en criant, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Vous avez remarqué comme de suite il veut qu'on change de look. Alléluia! Voir ce fils habillé comme ça, ça lui faisait mal au cœur, au père. Alléluia! Et ici, Sion était revêtue de haillons, peut-être même dans la nudité, dans l'esclavage. Elle n'était pas belle à voir. Et Dieu dit, réveille-toi, revêt-toi de splendeur. Alléluia! L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 2, dit, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Amen. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, Paul raconte ce que le Seigneur accomplit pour son Église. « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. » Et comment il a aimé l'Église? Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Je vous ai donné la version parole de vie. Alors si nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste, le peuple de Sion, alors nous n'avons rien à faire avec l'impureté. Et c'est pourquoi le Seigneur dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car désormais l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez toi. » On voit comment Dieu désire toujours la séparation avec ce qui est impur. L'apôtre Paul le disait aussi dans Romains chapitre 12, pour que vous compreniez que c'est un message pour l'Église. Il dira, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » En réalité, il y a marqué, « Soyez transfigurés, n'est-ce pas ? Métamorphoo en grec, transfigurés par le renouvellement de l'intelligence. » L'impératif suivant, c'est « secoue ta poussière ». Quand on les prend comme ça, hein, un après l'autre, c'est, ça parle, hein, « secoue ta poussière ». En Israël, les jours de calamité, on l'a lu souvent dans l'Ancien Testament, le peuple se jetait de la poussière sur la tête et déchirait ses vêtements. Ensuite, il s'asseyait dans la poussière et la cendre. Vous avez vu ça, hein, souvent dans l'Ancien Testament. La poussière et la cendre. La poussière et la cendre. Mais maintenant, mes frères et sœurs, ça explique le message d'Ésaïe 52. Notre situation a changé. Nous ne sommes plus un peuple de la poussière. Gloire à Dieu. Quel est ça te fait, dis-moi, mon frère, ma sœur, ce matin? Lève-toi, peuple de Dieu! Est en train de dire le Seigneur, secoue toute cette poussière. Vous allez dire, j'ai de la poussière sur moi. Oh, peut-être, oui. Vous savez, la poussière, elle vient avec le temps, hein. Ou des fois, c'est nous-mêmes qu'on se la jette dessus. Parce qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'a pas compris les choses nouvelles accomplies par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous pensons toujours comme autrefois, notre vieille mentalité. C'est pour ça que Paul dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, soyez transfigurés. Ça peut être la poussière de l'anxiété, ça peut être la poussière de la crainte, la poussière de l'impureté, de la pitié de soi, la poussière de l'incrédulité. Comment vous voulez que ça marche dans ces cas-là? Alors le Seigneur dit, remets-toi. Remets-toi de force. Remets tes habits de fête et secoue-toi. Oh, alléluia. Quand on les met un derrière l'autre, c'est impératif, hein, on voit quelqu'un qui se réveille, qui sort, qui bouge, et on le voit en train de se secouer. Amen. Il veut faire tomber toute la poussière. Et le Seigneur est en train de dire, ouvre les yeux sur ta nouvelle situation. Tu es aimé de Dieu, il t'a racheté. Tu es aimé de Dieu, mon frère, ma sœur. Ah oui, frère, mais si vous saviez par où je passe. Bien sûr que si on prend chacun en particulier, il y a pas mal de douleurs sur notre planète. Mais bien aimé, le Seigneur essaye de pénétrer notre cœur. Souvent dans la Bible, il dit « Ne crains pas, prends courage ». Et ici, ces paroles sont formidables. Écoutez, hein, réveille-toi, hein, revêt-toi de force, revêt-toi de tes habits de fête, et secoue-toi, secoue la poussière. Autrement dit, cette attitude de deuil dans laquelle se trouvait Sion, le Seigneur veut qu'elle change. Quand le gardien de prison, par exemple, de la ville de Philippe, a posé la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» On lui a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Vous remarquerez une chose, c'est que nous avons le choix, on nous demande de croire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans la poussière, on te demande de te secouer. C'est un impératif. Et puis le Seigneur dit « Lève-toi ». C'est l'autre impératif, le suivant. J'ai dit qu'il y en avait 8, hein. Lève-toi. On en connaît des lève-toi. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 5, l'homme paralysé depuis 38 ans, il voulait entrer dans l'eau quand elle était agitée pour être guéri. Et le pauvre, n'est-ce pas, il n'y arrivait jamais. Et ça me fait penser à beaucoup de créatures sur cette terre. Ils aspirent après un changement, après une délivrance, et ils n'y arrivent jamais. Mais Jésus, celui qui restaure, est passé par là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre que le Seigneur va lui parler. Lève-toi, lui dit-il, prends ton lit et marche. Gloire à Dieu. Il y avait un autre homme aussi qui gisait dans la misère, c'était le boiteux à la porte du temple. Deux hommes de Dieu passent par là. Le Seigneur le guérit. Et la Bible dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux, avec Pierre et Jean, dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Les choses ont changé, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité. Et un jour nouveau a commencé depuis. Le royaume de Dieu est ici, nous déclare la parole de Dieu. L'impératif suivant, c'est assieds-toi. Ce verbe hébreu, qui peut être traduit différemment, pourrait aussi signifier se fixer, s'établir. Et second traduit assieds-toi. Et certains traduisent aussi assieds-toi sur le trône. Et regardez, si vous avez un paquet de traductions, vous verrez. Assieds-toi sur le trône. D'ailleurs, la version Souraki traduit par le verbe trôner. Et il traduit tout simplement trône. C'est le verbe, vous savez, impératif, trône. Et c'est ce qu'annonce d'ailleurs le psaume 113. Au verset 7, il dit, il relève le pauvre de la poussière et sort le misérable du tas de fumier. Pour le faire asseoir avec les princes, même avec les princes de son peuple. Alléluia. Et ce message, il est pour qui, dites-moi? Il est pour vous, mes frères et mes sœurs. Il est pour toi, si tu veux croire au Seigneur. Alors vous êtes peut-être assis dans la confusion, vous êtes peut-être dans la misère, dans la poussière, dans la tristesse. Mais nous espérons que la grâce de Dieu agissant, le Saint-Esprit à l'œuvre ce matin, que devant ces paroles de Dieu, vous allez vous lever, vous allez marcher, vous allez sauter, vous allez louer Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Assis avec Christ dans les lieux célestes. Assieds-toi, dit le Seigneur. Assieds-toi. Amen. Assieds-toi dans la foi. Et il ajoute, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 2. Donc c'est un miracle. C'est le miracle de la grâce. Et on n'a rien fait pour cela, mes frères et sœurs. Et j'ai pensé à ce texte d'Apocalypse. Vous savez que chaque lettre de l'Apocalypse, les fameuses sept lettres de l'Apocalypse, se terminent par les paroles « à celui qui vaincra ». Et là, le Seigneur Jésus dit « à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône ». Alors ce serait normal de traduire ici, n'est-ce pas, « assieds-toi sur le trône ». « Règne, domine, alléluia ». Et il y a un dernier impératif, c'est détache les chaînes de ton cou. Vous avez compris, il s'agit ici de, symboliquement, on voit le peuple enchaîné, le peuple esclave, le peuple en déportation, exilé. Et vous savez qu'à cette époque-là, quand on les emmenait, c'était pas sur des beaux chars, etc. Hein. C'était enchaîné et marchant les uns derrière les autres. Et là, le Seigneur nous parle des chaînes autour du cou, les chaînes d'esclavage, des prisonniers. Et ça, c'est une chose qu'on n'aurait pas pu faire autrefois, détacher de nous-mêmes les chaînes de notre cou. On n'aurait pas pu le faire, mais il s'est passé quelque chose, c'est que notre Rédempteur est venu et il a brisé les chaînes que nous avions autour du cou. Alors on se secoue et elles tombent. Parce que Dieu dit « détache les chaînes de ton cou ». Ça veut dire que les chaînes sont brisées. Jésus les a détruites, ces chaînes qui nous liaient. Et Dieu dit « détache les chaînes de ton cou ». Vous savez, il y a des gens qui disent « Dieu me sauvera sans que j'ai rien à faire ». Vous y croyez ça? Eh bien, c'est faux et anti-biblique. Pour la bonne raison, c'est que Dieu ne va pas croire à notre place. Dieu ne va pas non plus se repentir à notre place. Ce sont des impératifs que Dieu attend de l'être humain. Nous devons nous repentir. Nous devons croire. Nous devons ôter les chaînes de notre cou. La Bible dit, par exemple, « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous ». Pourtant, le diable est bien plus fort que nous. Mais la Bible dit « Résistez-lui, il s'enfuira ». Il a beau être ce qu'il est, le Seigneur l'a vaincu. C'est pour ça qu'il est dit qu'il s'enfuira loin de nous. Et c'est pareil pour les chaînes de notre cou. Si nous suivons l'impératif du Seigneur, on remarque tout à coup que ces chaînes qui voulaient persister, qui voulaient tenir, peut-être vous êtes enchaînés par quelque chose. On ne va pas en citer quelques-unes ce matin, mais à chacun de voir, n'est-ce pas? Mes frères, mes sœurs, le Seigneur t'a libéré. Le Fils vous a affranchi. Et Jésus a dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libres. Ésaïe 61, verset 3, déclare que Jésus a été envoyé, et vous savez que Jésus l'a lu, à la synagogue de Nazareth, il a été envoyé pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous avez compris de quelle cendre il est question, les gens assis dans la cendre, dans la poussière. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Alors, je voudrais terminer avec les deux autres points que je vous ai dit. Là, nous nous sommes passablement arrêtés sur le premier, c'est-à-dire que le Seigneur attend de nous une réaction ou une action avec des impératifs à la clé. Et le deuxième point que je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est que le Seigneur a déjà accompli ces choses. C'est-à-dire que nous pouvons agir parce qu'il a déjà fait l'œuvre. La foi, c'est ça. La foi, elle ne voit pas la chose telle qu'elle est. Par exemple, si on pourrait dire, mais j'ai toujours les chaînes autour du cou. Oui, mais le Seigneur est intervenu. Il a fait une œuvre. Il a détruit l'ennemi. Alors, il dit à son peuple, secoue-toi, maintenant c'est terminé. Voyez-vous? Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Et vous savez ce que dit l'apôtre Paul? C'est que nous avons été aimés avant la fondation du monde. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle son peuple. Comment Dieu va faire pour nous sauver? Ce n'est pas expliqué dans le chapitre 52 d'Ésaïe. C'est au chapitre 53 que le prophète va décrire comment Dieu sauve son peuple. On ne va pas le rappeler en entier parce qu'il faudra qu'on y revienne. Mais vous savez, c'est sur la croix que le Seigneur Jésus a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça, c'est Ésaïe 53, 10 qui nous le dit. Il a livré sa vie ou son âme en sacrifice pour le péché. Et c'est Ésaïe 53 qui dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le troisième point, le dernier, c'est que nous devons proclamer la bonne nouvelle. Comme ce possédé, quand il était délivré de ses chaînes, lui aussi il avait des chaînes, des vraies chaînes. La Bible dit qu'on avait essayé de le lier avec des chaînes, mais il arrive à les rompre. Mais quand il a été délivré, il voulait continuer à rester accroché là, avec les disciples. Et Jésus lui dit, non, va chez les tiens et raconte-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi. Amen. Ça veut dire qu'en vue de ce que le Seigneur a fait pour nous, alors nous devons proclamer cette bonne nouvelle. Au verset 7, il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le Seigneur a livré bataille, il a écrasé l'ennemi, il l'a vaincu définitivement, une fois pour toutes. Et dans notre texte, nous avons l'image de quelqu'un qui court apporter la nouvelle de la victoire. Un peu comme on a des récits comme ça dans l'Ancien Testament. Par exemple, un coureur est venu dire à David la victoire. Il a couru, il a couru. Qu'ils sont beaux les pieds. Il s'agit ici des coureurs, des porteurs de nouvelles. Et ici, il est question de bonnes nouvelles. Il est question d'un salut qui est accompli. Il est question de Dieu qui règne. Il est question de paix, qui annonce la paix, nous dit Ésaïe 52. Vous vous rappelez quand l'ange est apparu aux bergers? Il leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia! Et les anges ne peuvent pas rester impassibles. On annonce cette nouvelle glorieuse, grandiose, bouleversante, révolutionnaire. Alors une multitude apparaît et ils se mettent à louer Dieu. C'est pour ça, moi, je pense que l'Église devrait être une Église de louange. Oh, alléluia, qui s'exprime avec vivacité. Alléluia. Jésus dit dans la synagogue de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Paul va citer ce texte d'Ésaïe que nous avons lu dans Romains chapitre 10. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il ajoute, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Et c'est pourquoi ce message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que les âmes entendent ce message et puissent dire, c'est pour moi, c'est à moi que Dieu parle. Alors je termine avec ce texte qui nous a servi de base. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car désormais l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Détache les chaînes de ton cou, captive fille de Sion. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Amen. Je voudrais qu'on se lève à notre place et que rendre grâce à Dieu. Et que peut-être quelques-uns ce matin ont besoin de saisir par la foi ce que le Seigneur a accompli pour eux. Prenons conscience. Regardez autour de vous et par la foi, et dites, mais c'est vrai, le Seigneur a détruit les chaînes, il a vaincu l'ennemi, il est mort pour moi à la croix du Calvaire, et il est ressuscité. Détruisons le pouvoir du mal, du péché et de toutes les captivités possibles. Oui, prends courage, mon frère, ma sœur. Saisis par la foi, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, saisis, crois. Aujourd'hui, que le Seigneur t'accorde ce salut par l'Esprit de Dieu. Il dit que la lumière soit et la lumière vient. Il dit que les chaînes tombent et les chaînes tombent. Nous te bénissons, notre Père. Oui, nous proclamons ta bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis ton peuple ce matin. Bénis chaque ami, chaque âme. Regarde, il y en a beaucoup. Tu le sais, mon Père, qui ont des besoins, des problèmes, qui sont là. Peut-être assis dans la poussière. Mon Seigneur, je t'en supplie. On voit bien dans ta parole que tu veux encourager l'âme à croire. On voit bien quand tu répètes, réveille-toi, réveille-toi, revais-toi, revais-toi. Oui, mon Père. Oui, 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 nous écoutons ta parole ce matin. Agis dans le cœur de chacun, je te prie. Fais ton œuvre au plus profond de nous-mêmes. Au nom du Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce infinie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelques annonces avant de se séparer.